Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted où on va parler encore de rap US pendant une heure avec toujours mes deux acolytes habituels que sont Joji. Comment ça va Jojo ?
Ça va, j'ai pas la plus grande forme mais je suis quand même content qu'on puisse se retrouver même si c'est en distanciel encore une fois.
Tout à fait, mes deux acolytes à distance et Momo qui est chez lui également.
Et voilà, c'est Momo, je suis venu te parler de Boston aujourd'hui. Hein, oh, j'ai spoil un peu sur le sujet, désolé, mais ça va.
Il annonce déjà la couleur, et oui, en effet, aujourd'hui, on s'intéressera à la ville de Boston et donc sa musique et son rap. On a déjà vadrouillé sur une bonne partie des États-Unis. À chaque fois, on s'intéresse donc à une ville assez saine. Bon, New York, on a dû faire je ne sais pas combien d'épisodes, parce que c'est quand même un peu plus balèze, donc vous verrez
qu'il y a... c'est pas fini.
Voilà, c'est pas fini. Donc, il y a certaines villes où il y a plusieurs épisodes, mais Boston, donc, on n'était jamais venu à cet endroit. Pour écouter le reste, on vous invite à aller sur www.deeplyrooted.fr pour écouter, à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Deeply Rooted, l'émission. Ce soir, Boston, est-ce que quelqu'un veut nous teaser un petit peu de quoi on va parler ? Jojo, peut-être ?
Du coup, on va explorer une scène de la East Coast, hein, et Boston, c'est à l'Est aussi, qui est une scène qui n'est pas très forcément mise en avant. Il n'y a pas, une grosse renommée, c'est pas une grande scène, mais il y a quand même pas mal d'artistes finalement, comme partout. C'est quand même une grande ville, hein, je veux dire, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et quelques rappeurs très intéressants, donc on va essayer de vous dresser les portraits les plus vivants possibles.
Super, et comme d'habitude, on s'écoute plusieurs morceaux pour illustrer l'émission. On démarre tout de suite avec Edoji, un son qui s'appelle donc Boston, qui date de 2004. On se retrouve tout de suite. Yeah. Uh-huh. Where you at, boss? Oh, yeah. Oh. I'm looking for more than street props and Pete Rock. Hit the beatbox, take your cheap shots from your weak street blocks. You heard like you eavesdrop when you all fall, like the seasons when the leaves drop. I'm mad lethal, never had equal, cause Boston's a good place to meet bad people. Your second joint, a sad sequel, you an old school rapper who mad feeble. Don't get a need to concern yourself with what we do. You can get the picture first just like a preview. Laid up with a tube to breathe through. We take the good and evil and breeze through. I know you act, don't put out records to remind me. Special teams walk beside me, not behind me. I'm a throwback from the 90s, whose return is timely. For hip-hop consciousness, that's grind. For Boston, humble ass. Hey yo, my work ethic, dispersed effort from my first to my worst effort. There's a madness to my method, it's universal. My music is underground and commercial, wholesome and controversial. The routine, no need for rehearsal. CEOs, label owners, role reversals. Different ciphers, different circles. The weed was brown, now it's green and purple. I'm telling truths and lies like a reverend. Fell in love with hip-hop at age 11. Edo's the veteran who used it as a weapon to raise hell up in heaven. Now I'm considered a legend. If my peeps will come, the streets will come. If rhymes is hot, then the beats will come. And in the industry, you can't be too dumb. And in Boston, they wonder what street you from. I'm from the boat. For Boston, humble ass. Stones unturned, stories untold. The plot unfolds when Edo G push the threshold. I rock like the pest mode, hip-hop's best old. Any club I'm in, I'm disobeying your dress code. The spots vary, pop cherries, a big butt chicks that's top heavy. Bring them back to Roxbury and spark heavy. Cause I'm living a dream, not even half your team can stand a fire from the gasoline. I'm still dirty, so I'm half as clean. I'ma holler if my ass is mean. To you ballers that's after clean, me and my selfish team will take your self-esteem. To your whole crew's a helpless team. Can't be the ace when you dealt the queen. My knife go through flesh and rupture your spleen. I try to stay neutral, right in between, and remain cautious on the Boston scene. For Boston, humble and c'était donc le bon vieux Edoji avec le son qui s'appelle Boston pour parler de la ville.
Donc comme le disait Jojo, c'est vrai qu'il y a des villes bon, où c'était assez évident et où même on ne savait pas combien d'émissions on pouvait caler pour parler tellement le panel était grand. Boston, à première vue, on s'est dit de quoi on va parler. Mais en même temps, c'est intéressant de voir les artistes qu'il peut y avoir sur place parce qu'il se passe des choses à coup sûr. On va commencer comme d'habitude avec une petite présentation de la ville. Et pour ce faire, je vais préparer mon meilleur quiz que j'ai décidé d'appeler High Five, parce qu'à chaque fois, il y aura 5 questions, je l'avais déjà fait la dernière fois, et ça nous permettra d'aborder un angle de l'émission, sous un angle un petit peu plus de challenge, bien sûr. Donc, on commence tout de suite, on va essayer de ne pas faire trop long cette fois-ci. Je commence, n'hésitez pas à jouer entre vous, Jojo et Momo, bien sûr, qui sont toujours avec moi. En quelle année est fondée la ville de Boston? Je suis sûr que vous ne le savez pas.
C'était Boston, attends, c'était pas pendant la... Non, pas la Boston Tea Party. Allez, je me lance. On a le droit à combien de marge d'erreur? 1712.
Là, faut que ça enlève. 1712.
1685.
Eh bien non, c'était 1630. C'est assez vieux car c'est une des plus vieilles villes, justement. Ça me permettait juste d'aborder ça. Parce que Boston a une histoire assez chargée, notamment au niveau de la naissance de la nation américaine, parce qu'au niveau de la révolution, de l'indépendance, l'abolition de l'esclavage, etc., c'était une ville assez phare aux États-Unis, et donc elle a été fondée en 1630. Alors paradoxalement, même si c'est une ville qui est assez avancée sur les points que je viens de citer, elle a été fondée dans une certaine intolérance, puisqu'elle a été fondée par les Puritains et les Quakers. Vous savez ce que c'est les Quakers, bien sûr.
C'est... Voilà quoi.
C'est pas une marque de céréales.
Si, c'est une marque de céréales, ce que j'allais dire.
C'est la société religieuse des Amis.
Une sorte de mormon, quoi.
C'est un mouvement religieux fondé en Angleterre qui est une dissidence de l'église anglicane. Et donc, au début, à l'époque, disons qu'ils n'étaient pas très tolérants, ils pendaient des gens, etc. Voilà, mais donc,
très gentil, oui.
Donc, ça a bien changé et depuis, c'est devenu, on va le voir, un foyer particulièrement important culturellement et intellectuellement. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on appelle Boston l'Athènes de l'Amérique?
C'est la deuxième question du quiz.
Tout à fait.
L'Athènes de l'Amérique, c'est parce que il y a une acropole au milieu de la ville.
Pas du tout, on adore les comparaisons foireuses. C'est parce que, comme vous devez le savoir, il y a plus de centaines d'institutions publiques et privées, et notamment beaucoup de collèges et d'universités,
ouais,
dont notamment l'une des plus connues qui est
MIT
Harvard,
et Harvard.
Harvard, voilà, qui sont pas à Boston, mais à Cambridge, qui est pas très loin.
Dans le Massachusetts.
Exactement, donc ça montre un peu cette vitalité de la ville. Sachez par exemple que les publications médicales de Boston sont deux fois plus nombreuses que celles de la France tout entière réunies, et que donc l'agglomération est devenue le deuxième pôle américain au niveau de la haute technologie après la Silicon Valley. Question un petit peu plus cinématographique maintenant pour les gens peut-être qui auraient pu voir passer cette ville. Quel acteur réalisateur a grandi à Boston et qui a fait à cette ville la part belle au cinéma?
Ben
notamment, ils suivent. Voilà, Charleston, notamment l'un des quartiers les plus dangereux, qui est évoqué par Ben Affleck dans.
Non, c'est un truc de braquage, comment ça s'appelait?
T'as dit quoi, Jojo?
Ah, The Town.
Ouais, c'est The Town, je crois ça.
Toi, t'as dit quoi, Jojo, en premier?
J'ai dit Will Hunting, mais.
Will Hunting, tout à fait. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a été vraiment marqué par la ville. Du coup, son frère est né là-bas, mais.
Casé, ouais. Mais ils ont fait un film là-bas aussi, je crois, d'ailleurs.
Tout à fait, bah, du coup il y a eu donc The Town qui est vraiment axé là-dessus, on peut voir justement la communauté d'origine irlandaise qui est dans la ville, donc enfin, je ne sais pas si vous allez en parler après au niveau musical, mais c'est l'une des grandes communautés de la ville, et donc ils montraient les spécialistes de braqueurs de banque notamment, parce qu'on va le voir, la ville n'est pas la plus dangereuse de celles qu'on a pu évoquer, hein, donc il n'y a pas Atlanta, Détroit et compagnie, mais il y a quelques quartiers un peu violents. Et donc, il avait écrit avec Matt Damon, Will Hunting, tout à fait. Mystic River aussi, qui se passe un petit peu là-bas et qui raconte la communauté irlandaise. Et Boston, qu'il a sorti dans Live by Night. Enfin, on parle de Boston, pardon, dans Live by Night, qui est sorti en 2017, qui n'est pas un très bon film, de ce que j'ai vu, et qui raconte le Boston des années 20.
Voilà. Je me permets de rebondir sur ce petit passage cinématographique pour rappeler que Mark Wahlberg, qui vient de Boston aussi, qui a été rappeur sous le nom de Marky Mark avec son groupe, il a préféré une carrière cinématographique à celle du rap, mais il était déjà torse nu à montrer ses muscles dans les années 90, début des années 90. Voilà.
Je ne savais pas. Peut-être plutôt pour Momo, est-ce que tu peux me citer du coup les différentes équipes de sportives qui font la gloire de Boston?
Voilà, les Boston Red Sox au baseball, il y a les New England Patriots au football américain, il y a les Boston Celtics au basket, il reste le hockey. C'est pas les Ducks ? Non, non, c'est pas eux, je crois que c'est Virgin. Ok, bah non, je savais pas.
Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs.
Les Wings ?
Les Bruins.
Ah. Bruins. Les Bruins de Boston ? Non, non, je sais pas du tout.
Donc, on va dire qu'ils ont des bonnes équipes, tu nous confirmeras, maman ?
Oui, oui, carrément, oui. Bah, au basket, et... enfin non, mais sur tous ces sports-là. Après, ok, j'en ai aucune idée, mais ouais, c'est une très très grosse ville de sport pour le coup.
Donc sport, culturel, tout ça on l'a vu, et musicalement du coup on va y venir pour faire le lien avec notre émission et arriver au rap bien sûr de Boston. Qui peut me citer trois têtes d'affiche qui viennent de Boston rapidement?
Aerosmith.
Ouais.
Hors rap tu veux dire?
Ouais ouais, hors rap oui.
Les Pixies.
Tout à fait, toi je vois que t'as travaillé ton sujet. Hein.
Et après dernier je sais pas, I Am.
Moi je sais, je suis perso.
Pixies, tout à fait. Aerosmith, alors j'ai vu que c'était les Bad Boys de Boston, apparemment, comme appellation, donc qui était un peu hard rock et après plutôt pop rock, on va dire. Donc c'était des années.
Et Dropkick Murphys aussi.
Dropkick Murphys, tout à fait. Alors que j'ai regardé, je connaissais pas du tout de nom, mais si vous écoutez leur tube, en fait tout le monde connaît, c'est une musique ultra connue, qui font eux du punk celtique.
C'est ouais, mais c'est ce que c'est la musique des infiltrés.
Voilà, c'est ça. Mais sorti dans plein de
oui, trucs. C'était les questions que t'as posées étaient pas assez pointues en fait. Donc Jojo n'a pas, c'est qu'il avait pas d'intérêt à répondre à Aerosmith.
Pour le coup, je le savais pas.
Morphine, The Cars, apparemment que je connaissais pas trop, mais ils sont connus. Donc c'est plutôt une ville notamment marquée par le rock. Peut-être que Momo, tu peux nous faire un peu le lien justement entre ces années fastes du rock, années 80, début 90 peut-être, et comment on en est arrivé aux premiers artistes rap.
Bon, alors, enfin, très honnêtement, pour le rock, je sais qu'il y a une très grosse période entre l'année 70 et début des années 90. Après, le lien, je pourrais pas te le dire. Je sais qu'Aerosmith a été un peu le premier lien entre les deux quand ils ont fait leur feat avec Run DMC. C'était en 86, un truc dans le genre. Mais en tant que tel, bah, comme le disait Jojo, en fait, Boston, c'est une ville de la East Coast. Et donc, en fait, c'est très proche de New York. Et bon, à la fin des années 80, le rap, ça battait son plein là-bas. Bah, à Boston, c'était pas développé. On en écoutait, mais c'était pas ultra développé. Alors, pour le coup, c'était pas dénué de culture musicale, Boston, parce que il y a une boutique qui est très connue là-bas, un disquaire qui est tenu par un certain Skippy White. Et c'est là-bas où on allait se fournir en CD, en vinyle, des meilleurs sons qui venaient de New York. Alors, d'aucuns disent aussi que le premier rappeur de Boston s'appelle Kevin Fleetwood, avec son titre Sweet Off, qui est sorti en 83. Alors j'ai écouté, ça ressemble pas à du rap, ça ressemble plutôt à une espèce de disco un peu... un peu plus rythme. Enfin, non, c'est déjà rythmé la disco, quoi, mais à la limite plus lente. Bon, c'est un peu bizarre, mais... Moi, j'y vois pas beaucoup de rap. Mais pour le coup, comment ça a explosé, à mon sens, c'est grâce à un mec qui a été le catalyseur du rap à Boston et qui s'appelle Magnus Johnston. Alors, ça pourrait être un nom de catcheur, mais pas du tout. Et tout à l'heure, tu parlais à juste titre des universités de Boston et du Massachusetts. Et ben alors, Magnus Johnston, c'est un mec qui a lancé une radio sur le campus du MIT. Alors c'est une université de sciences qui est considérée comme une des meilleures du monde et que, enfin, on a forcément entendu parler dans des films, des séries, etc. Dès qu'ils savent pas citer un truc un peu connu, ils citent le MIT aux États-Unis. Et donc, ce cher Magnus va sortir une émission qui s'appelle, enfin va sortir, produire, faire une émission qui s'appelle Les Causes Lema. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que bon, je sais pas si c'est de l'argot ou pas. Mais dans cette émission diffusée sur le campus du MIT, donc ce qui est quand même un truc assez sérieux. Bah, il va diffuser le son de tous les jeunes rappeurs en herbe de Boston qui lui envoient leurs petites cassettes, leurs petites démos. Il va y inviter des rappeurs pour des interviews un peu improvisées et décalées et des concours de DJ. Et d'ailleurs, un soir où il organise un concours de scratch, bah, y a un mec qui est surnommé Toe Jammer. Donc c'est quand même genre Toe, c'est le gros pouce, quoi, c'est l'orteil, ouais. Et Jammer, bah, jam, c'est, ouais, je sais pas, c'est de la musique, c'est un peu. Jam, c'est de la confiture théoriquement, mais.
C'est comme un bœuf, quoi.
Ouais. En tout cas, le mec va scratcher avec ses pieds à un moment. Il y a une photo de ça, et genre, c'est un truc un peu légendaire. Et c'était vraiment. En fait, il y avait une ambiance assez folle quand tu revois les photos de l'époque. Et c'était vraiment, on était dans la passion, dans une énergie. C'était très local. Il faisait ça dans les locaux du MIT aussi. Et c'était vraiment fou, quoi. Genre, c'était l'effervescence des débuts du rap. Et d'ailleurs, il y avait deux autres shows radio de Boston qui ont rencontré un succès en même temps que Les Causes, Lema. Ces deux shows s'appellent Rap Explosion et Street Beat. Alors, Rap Explosion, pardon, s'était émis sur l'université d'Emerson et Street Beat sur celle d'Harvard. Donc ils sont vraiment, pour le coup, très très studieux à Boston. C'est marrant que ça se développe là-bas d'ailleurs. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que les deux créateurs de Street Beat, ce sont les cofondateurs de The Source Magazine. Et The Source est une institution, je pense qu'un jour on en parlera plus profondément, plus longuement, mais c'est vraiment genre le magazine rap numéro 1 où ça l'a été pendant très 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 longtemps.
Ouais, c'est une des plus grandes références.
Ouais, voilà. C'est une institution rap aux États-Unis, même mondiale. Et ce qui est drôle, c'est que The Source, à la base, c'était le nom de leur. C'était le nom de l'affiche. Ils se faisaient des petites affiches à Harvard pour promouvoir leur émission, et ça s'appelait The Source, et ça tenait sur une page à la base. Donc en tout cas, pour revenir rapidement à Les Causes Lema, il y a tous les plus grands groupes de Boston de rap qui ont commencé ou qui ont fait un passage par là-bas. C'était un peu le Planet Rap. J'arrête de faire des comparaisons avec Fred de Sky, mais de Boston. Et voilà, on a eu Guru, de Gangstar, qui est issu de Boston, hein, bien qu'il ait fini à New York et que ça soit devenu sa ville d'adoption. Almighty RSO, qui est un groupe légendaire de Boston, et dans lequel on pouvait compter Benzino. Benzino qui est le coproducteur de The Source, du magazine, donc on est vraiment genre, tout est lié quoi. Et aussi d'un certain Ed O.G. et de son groupe Fresh to Impress, dont on va vous parler un peu plus tard dans l'émission.
Ok, et ben merci pour cet exposé, j'espère que ça vous a plu, que ce soit le petit quiz ou l'histoire un peu rap de Boston. On va pouvoir se plonger un peu plus en profondeur dans le sujet en s'écoutant d'abord un nouveau son de Almighty RSO qui s'appelle One in the Chamba, et qui est sorti en 92. Je vois que mes acolytes rigolent à distance, je peux voir leur
visage
réjoui encore une fois devant mon échec à parler en anglais. On se retrouve juste après dans Deeply Rooted pour continuer à parler du rap de Boston. À tout de suite.
Almighty RSO, One in the Chamber, the song that has got all the controversy going. It sounds like not only one in the chamber for the cops, but one in the chamber for anybody who talks to the cops.
It's basically saying that if someone is going to be saying that they're on my side, you know, saying that they're cool with me, and then they're going to double cross me,
you'll kill them.
I'm out here, you know what I'm saying? It's crazy wild out here. So I got to roll with minds like that, man, and be prepared for anything that jump off. Yo, wrong, man. Tell him what that cop did to that kid.
Yeah, man, it's real messed up. But I'ma tell you like this. Check it.
A brother caught a bullet, now he's dead. Shot by a cop who seen him traveling up the bleeding from the head. And that's going out the flyway. Straight up murder. Murder motives that he done him in the hallway. And like always, a lot of controversy. But of course, he got always got free. And yo, it hurts me. And it makes me angry just knowing that a cop can't stop. Reach, pull the trigger, no speech. Laid off for 2 weeks and then he's back. Just a paid vacation.
that joint. Put one in the chamber, put one in the chamber. This kid is bringing danger. Now y'all can sit around and wait for the heat to blow, but I'd rather see him laying 6 feet below. He wanna play mischievous? Let me show him when you're messing with these devious. How the game gets played, the game's played with anger. And I'm playing with one in the chamber.
De retour dans Deep Routy d'après, ce sont de Almighty RSO. C'est Momo qui va nous parler des Doji, dont il nous a dit deux mots, mais vraiment très rapidement dans la première partie. Écoute, à toi la parole.
Bah, c'est vrai que je vous ai un peu spoilé, je voulais juste revenir vite fait sur le son d'avant, hein, genre juste dire une ligne sur One in the Chamber. C'est en gros, c'est une balle dans, dans la chambre du flingue. Et c'est un son que Almighty RSO avait sorti parce que il y avait eu des émeutes et des... pas mal de faits avec la police qui avait de violence policière qui avait eu un moment, donc c'est pour ça qu'ils avaient sorti cette chanson dans ce contexte là de violence urbaine. Alors je vous ai spoilé avec Edoji, mais c'est pas très grave parce que c'est un peu le papa ou le patron de la scène, et comme je vous le disais, donc c'est dans l'Echoes Lemma qu'il a fait ses débuts en 86 avec son groupe Fresh to Impress, et finalement il avait que 15 ans déjà. Alors, j'ai pas réussi à trouver de son ou de bio sur Fresh to Impress, j'ai un peu galéré. Mais
il y avait une compile qu'ils avaient fait, Boston Goes Deaf.
Ouais.
Et il y avait un son de Fresh to Impress, moi c'est le seul où j'avais vu.
Pour le coup, j'ai cherché et je sais qu'il y avait ce truc-là. Et je sais qu'en plus, là à Boston, ils font un. Enfin, ça date d'il y a quelques années, mais ils considèrent que l'Echoes Lemma, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel de la ville. Et là, ils sont en train de. Ils ont réupload plein d'émissions, d'archives et tout. Et c'est super stylé en termes de texture et de son d'avoir ce son-là de l'époque. J'ai cherché, j'ai rien trouvé qui me permettait de les avoir directement. Moi, je me dis, comme c'était un groupe de jeunes, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de traces. Mais en tout cas, c'est cool au niveau des archives, on vous mettra le lien, je trouve ça très très stylé ce travail historique qui a été fait. Bon, en tout cas, pas trop de traces de Fresh to Impress, mais il va continuer son petit chemin. Et puis, 3 ans plus tard, en 89, avec l'aide de The Awesome 2, il va créer son nouveau groupe. Enfin, ça va être Fresh to Impress plus The Awesome 2, ça va créer Edoji and the Bulldogs. Alors, petite précision. En tout cas, un aparté et une précision. The Awesome 2, c'est un duo de DJ et de showrunner un peu touche-à-tout qui est composé de deux membres, donc Teddy Ted et Special K, pas des céréales, attention, et qui nous vient de New York. Et c'est un peu des légendes. Alors, eux, ils ont collaboré avec vraiment une foule d'artistes. Je pense qu'il n'y a pas un artiste aux États-Unis rap avec lequel ils n'ont pas collaboré, retrouvé leur nom associé. J'abuse, mais c'est pour dire vraiment à quel point... c'était des touches à tout. Et ils sont aussi connus pour tenir le show rap en radio qui est le plus vieux de l'histoire, qui s'appelle The Awesome 2 Show. Donc, ils ne sont pas allés très loin dans le nom, mais c'est diffusé depuis 82. Donc l'année prochaine, ça fera 40 ans. Donc le show est plus vieux que nous, les amis. Mais voilà.
C'est le plus vieux de l'histoire du rap, c'est ça que tu dis ?
Ouais.
Ok, cool.
Donc, ne serait-ce que pour ça, ils sont plus forts que Fred de Sky. Et pour la précision, The Bulldogs, alors c'est un peu une référence au chien, je pense, mais c'est aussi un acronyme qui veut dire Black United Leaders Living Directly on Grooving Sounds. Voilà, j'ai découvert ça, donc ça c'était pour la petite partie info. Bref, on en revient à Edoji. Alors en 91, le groupe va sortir le premier album qui s'appelle Life of a Kid in the Ghetto, et... Bon, pour le coup, on est clairement sur un album solo. On pense que c'est un album de groupe, mais je crois qu'il y a quasiment que lui qui rappe dessus. Et donc, vous avez les Awesome 2 qui sont à la prod, à la direction artistique. C'est même pas eux les beatmakers, parce que j'ai regardé un peu les crédits.
Ouais, ça, je trouvais bizarre, justement. Je comprenais pas trop l'histoire des Bulldogs et tout. Mais...
ouais, non plus. Je pense que c'est un espèce de posse. Ils sont là, ils sont vraiment dans cette vibe de groupe, de posse, limite un peu de gang de l'époque, tu vois, fin des années 80, début des années 90. Il y a deux feats sur l'album, je sais même pas si c'est ces types-là. J'ai jamais réussi à savoir qui était dans le groupe.
Ouais, c'est pas hyper bien répertorié.
Non, pour le coup, c'est assez ancien et ouais, il y a encore peut-être du travail à faire là-dessus, quoi. Mais en tout cas, The Awesome 2, comme je le disais, sont la direction artistique, un peu à la prod, mais jamais directement dessus. Les featuring, pareil, c'est un peu obscur. Mais en tout cas, pour le contenu de l'album, on est vraiment sur un pur Ghetto Report. C'est-à-dire vraiment, genre, le mec, c'est un peu le... Enfin, Ed Oji, c'est un peu un journaliste dans le ghetto au début des années 90, où il se fait le compteur des rues de Roxbury. Alors, c'est un quartier défavorisé de Boston. C'est vrai qu'on en a pas parlé encore. Mais c'est clairement un quartier clé dans l'histoire du hip-hop et de l'histoire afro-américaine. Je sais pas, au niveau irlandais, parce que je ne me suis pas trop renseigné, je sais pas s'ils vivent en mixité dans ce quartier-là.
Ça a l'air plutôt par communauté, j'ai l'impression.
Mmh. Un peu comme partout aux États-Unis, j'ai l'impression. Ouais. Mais donc voilà, lui, son but, c'était vraiment représenter Roxbury et genre en faire un peu un espèce de journal du quotidien des gens de ce quartier-là, quoi. Et pour le coup, en termes de prod, on est clairement sur les canons de l'époque. Donc, il n'y a rien d'original, mais c'est très bien fait et c'est très propre dans le son.
Ça a très bien vieilli, hein, moi, je trouve.
Ouais, de ouf. C'est ce que je me disais, parce que moi, j'avais jamais écouté avant de faire l'émission, hein, pour être très honnête. Et autant, parfois, on écoute des sons un peu à l'ancienne et je me dis, non, tu vois, genre, c'est crado et ça me donne pas du tout envie de continuer à écouter le truc. Autant là, je me suis pris et je l'ai écouté 2-3 fois, tu vois. Donc,
ouais, pour du 91, le premier album, franchement, il sonne hyper bien, quoi.
Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'était très bien produit et très bien fait, même si c'était des canons de l'époque en termes de sonorité. Et puis même, Ed Oji, c'est vraiment un très bon kicker, et puis il est très porté sur la morale et sur, pas dire rap conscient, parce que c'est un peu fourre-tout, quoi, mais tu vois, typiquement sur un morceau comme Be a Father to Your Child, où vraiment il parle aux hommes en leur disant, voilà, si vous faites des enfants à un moment, genre, responsabilisez-vous et vous les assumez, sinon n'en faites pas, en fait. Et je trouve ça une question d'actualité encore, et puis c'était déjà pas mal d'en parler à l'époque. Anyway, l'album est c'est un succès critique plus que commercial, pour le coup, on va être honnête, mais tout le monde considère cet album-là comme un classique de Boston, et un peu un classique du rap US. Ils vont sortir un second, qui s'appelle Roxbury 0219, en 1993. Mais bon, ils vont se séparer après ça, ils vont laisser Ed OG, donc Ed Original Gangsta, devenir Edo, plus loin G. Il a changé son nom, même. Je sais pas, c'était peut-être pour marquer la rupture. Mais pour le coup, il va lâcher 6 albums solo, qui sont quand même tous de bonne facture. Après, ça peut être de qualité un peu variable, mais globalement, on est sur une bonne discographie. Il y a une coupure de 10 ans, en fait, entre le deuxième et le troisième album, mais il a fait pas mal de tournées aussi avec pas mal de rappeurs connus. Je sais qu'il a tourné avec Common, il a tourné avec The Roots. Enfin, il a grave collaboré pour le coup.
Ouais, il avait fait des albums avec Masta Ace aussi.
Ouais, avec Masta Ace aussi. On en parlera un peu après, mais enfin, très brièvement, il y a son album avec Pete Rock qui est une tuerie absolue. Donc il a vraiment collaboré de manière qualitative pour le coup. Et même là, son dernier album, son dernier projet date de 2017, s'appelle Freedom. Ouais, et franchement, le mec, il en voit encore. Hein,
j'ai écouté, ouais, ça s'écoute. Enfin, c'est super cool encore.
Ouais, carrément. Donc, pour le coup, en termes de longévité, d'efficacité, je suis vraiment impressionné. Et puis, j'avais l'impression qu'il était encore plus engagé et déterminé en 2017 qu'avant, quoi. C'est vraiment l'espèce de vétéran qui lâche pas le steak. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille d'aller écouter globalement toute sa discographie. Après voilà, vous pouvez être picky, moi je vous donnerai des albums qui m'ont plu à la fin de l'émission, mais voilà, c'est vraiment un rappeur qui allie le fond et la forme et qui fait souvent appel à l'esprit sensé de l'auditeur. Donc moi j'ai pris un gros pied à écouter une bonne partie de sa discographie, j'ai pas tout écouté, hein, faut être honnête, ça m'a un peu changé des stupidités d'aujourd'hui, mais go écouter Ed Oji.
Oh le réac.
De ouf.
Et du coup, ouais, tu le disais en fin d'émission, on fera le menu maxi best-of comme d'habitude avec les trois albums conseillés par nos merveilleux chroniqueurs qui sont Momo et Jojo. Ça vous permettra d'entrer de faire une incursion dans la scène de Boston sans avoir à écouter 50 albums et être effrayé par le nombre de choses à écouter. Si tu as terminé, on va s'écouter à nouveau un son de Ed Oji justement avec Blacked Out qui s'appelle Nothing Ventured, qui date de 2001, et on se retrouve tout de suite avec Joji pour qu'il va nous parler de Monsieur Leaf, bien sûr. À tout de suite. A voice can cut through the hazy fog of time and bring yesterday's images sharply into focus. Do you
recognize this voice.
Hey, yo, check it out, yo. Merry fifth, miss, till you get your trees up. Black door spit like a firearm, licking your knees up. Fifth militia crowd, please alike Nate Wally. Worldwide, civilized women speak highly. Courage under fire, thought the wire walking SP. Smooth talking rap Attila, the hunt is split skiller. So travel the globe, it's none iller. Composing the spine chiller while the rhyme killer clone grafted off. Sweat that I shed, something I said. Rock the fifth insignia all up on his head. My black lung regimen can't relate with fake shit. I'm swimming with up inside the snake pit. Makeshift niggas is lost out there. The drown, turn your mics off. Y'all MCs should duck down. We coming with this real rap sound from Philly town. Shatter your crown. What the people want now? Come on.
Nothing big venture, nothing gain.
Wanna rock the same clothes. Same old rapper, same old mission.
Do you recognize this?
Nothing big venture, nothing gain.
Do you recognize this?
Now all these chickens running around with their head cut off. And if you ever caught me sleeping, it was after I got my nut off. Your light shining, it's getting shut off. We keep ones like strippers who shake their butt off. A lot of y'all can't pay back advances. I get my grind on just like lap dances. We in the last days of last chances. No storybook romances. Me and Thought got the answers. If we wildin' or chillin', growing up in bloody streets or even in bleeding buildings. This rap thing feeding millions. You on a mission to shine and glisten. Cause money talks, and when it talks, motherfuckers listen. Now cause your ish flop, that don't apply to me when my ish drop. I love hip hop, and love Roxbury. Niggas be breaking when I rock steady, but y'all ain't ready for Eddie, come on.
Nothing big venture, nothing gain.
You wanna rock the same clothes. Same old rapper, same old mission.
I recognize this.
Nothing big venture, nothing gain.
Recognize this voice.
Me and my team can only do the best that we can, and we'll never let a chicken make us less than a man. Breathe every breath that you can. I'll be the life of the party, you be the death of your man. With your weapon in hand, yo, I'm liable to let loose on my rival. On my arrival, I spit verses like the Bible in a language that's tribal to ensure my survival. Up in the clouds off the hydro. When I pass you, don't get salted like a cashew. I do what I want to, and you do what you have to. Edo G, and none of y'all ahead of me. On point is what you better be, dog. Check the pedigree.
Nothing venture, nothing gain.
You wanna rock the same clothes.
Same old rapper, same old mission.
I recognize this.
Nothing venture, nothing gain.
Recognize this voice.
Vous êtes toujours dans Deep Routy, dont on parle du rap de Boston, et c'est cette fois-ci à Jojo de nous parler d'un autre artiste important de la scène, c'est Mr. Leaf. Qui devient-il et pourquoi fait-il du rap, Jojo?
Pourquoi il fait du rap? Sûrement parce qu'il a des choses à dire, je pense. C'est un de ses traits de caractère principaux, si on veut le définir en tant que rappeur. Je suis pas forcément le plus grand fan de Mr. Leaf, mais c'est quand même un très bon rappeur, et surtout ça me permet de parler de l'équipe Def Jux, à ne pas confondre avec Def Jam. Donc Def Jux, en fait, c'est Definitive Jux, c'est un label incontournable et enfin voilà, qui a complètement marqué le rap indé underground de l'East Coast. Ça a été fondé par LP. Alors, en fait, LP, il avait son groupe qui s'appelait Company Flow en 97, je crois qu'ils avaient sorti un album Fun Crusher Plus qui avait atomisé le rap indé, qui avait vraiment marqué son époque, et enfin, voilà, ça avait complètement changé la donne. En fait, ils avaient vraiment ouvert une brèche dans un style de rap et notamment de prod, puisque voilà, LP avait des prods en fait qui utilisaient très peu de samples, c'était très électronique. Et puis au niveau rythmique aussi, on n'est pas du tout dans la rythmique classique, je trouve, du boom bap. Il y a vraiment quelque chose de plus changeant, instable, et enfin voilà, ça, je trouve que c'est de la musique assez électronique en soi, et avec du rap par-dessus, c'était quelque chose d'assez nouveau de faire ça comme ça. Et donc Mr. Leaf, il fait partie voilà, de cette vague au début des années 2000 de Def Jux qui a vraiment à cette époque-là, il marchait sur l'eau parce que toutes les sorties, enfin après voilà, quand je dis marcher sur l'eau, c'est pas des sorties, c'est pas du mainstream, donc il n'y avait pas ça en termes de vente, c'est pas foufou, hein, mais ça avait vraiment marqué les esprits et obtenu un énorme succès critique. Il y avait par exemple Cold Vein de Cannibal Ox qui pareil est un grand classique de ce style de rap. LP qui avait sorti son premier album et Mr. Leaf voilà, qui lui commence un petit peu avant et qui signe avec Def Jux début des années 2000 et qui sort donc l'EP Emergency Rations. Je me foutais de ta gueule, Doug, mais en fait,
je constate.
Donc voilà, donc ça c'était un EP et puis à la fin de l'année 2002, il sort High Phantom, donc un peu un de ses albums phares. Juste pour finir sur LP, je rappelle que maintenant il a lui trouvé le, enfin trouvé c'est pas forcément ce qu'il cherchait, mais en tout cas il a eu le succès mainstream avec Run the Jewels. Voilà, que j'encourage à écouter vraiment tout ce qu'a fait LP, ça c'est carrément incroyable. Voilà, donc pour revenir à Mr. Leaf, voilà, il doit son nom à, c'est un personnage un peu perché, mais qui a quand même beaucoup de, enfin pas revendications, mais des choses à dire, comme je disais tout à l'heure. Il doit son nom à un personnage qui s'est inventé pendant un trip sous champi. Je trouve ça rigolo. The Lifted Lehman, il avait créé ce personnage-là et puis finalement c'est devenu son blaze, Mr. Leaf. Voilà, donc lui il puise ses influences plutôt à New York, enfin même carrément à New York, avec plutôt donc des rappeurs assez revendicatifs et avec comme par exemple Chuck D ou KRS-One et aussi bon, Rakim qui lui aussi a des choses à dire, mais qui, je pense que c'est surtout d'un point de vue technique qu'on sent une influence de Rakim, qui est donc un des plus grands rappeurs sur ce plan-là. Et puis aussi, bien sûr, Guru, donc un des grands noms de Boston, dont il s'inspire beaucoup, enfin, en tout cas, il est assez fan. Voà, donc au niveau technique et flow, il est très, voilà, on est dans du gros classicisme, hein. Mr. Leaf, c'est très bien rappé, mais c'est pas forcément le truc hyper particulier. Donc c'est vraiment plutôt son écriture qui est intéressante. Donc High Phantom, c'est un peu son album phare, donc c'est son premier long, voilà, LP quoi. Et c'est un concept album, qui en a fait d'autres d'ailleurs des concept albums, et celui-là il est vraiment cool, il illustre vraiment les difficultés d'un afro-américain dans la société américaine, et donc toute l'illusion en fait du rêve américain, tout le côté piégeux, parce que enfin, voilà, on nous fait rêver, on nous fait croire à tout un tas de choses et finalement ça reste la patrie de l'esclavage, etc. Et donc enfin voilà, pour les Afro-Américains, il y a tout le côté discrimination qui est très dur, et ça il le fait vraiment bien dans cet album là parce que il y a vraiment le côté scénarisé. Voilà, t'as tout un scénario qui commence par la mort du personnage, finalement il ressuscite et puis voilà, ensuite il décrit diverses scènes pour finir par une apocalypse et après le dernier morceau qui s'appelle Post-Mortem, où voilà, il sort un dernier texte de venu de l'au-delà. Donc en fait tout ce côté scénarisé fait que ça lui permet d'aborder tout un tas de sujets et que ça reste complètement divertissant. Donc c'est vraiment un super album avec quelques prods de LP et d'autres vraiment qui sont dans ce style encore, comme je disais, assez particulier. Voilà, et donc Mr. Leaf, après il a continué, il a une carrière sans... Il a fait une petite pause, je crois, aussi entre le début des années 2010 jusqu'à 2015. Et sinon, il a continué de produire des albums, toujours un peu assez éclectique. Au milieu des années 2000, il formait un trio avec ses potes Acrobatic, un rappeur qui s'appelle Acrobatic et DJ Fax One. Voilà, c'est un peu ses potes depuis l'enfance, enfin, ou depuis le lycée, je sais plus. Mais voilà, c'est des gens qui connaissaient depuis longtemps, qui côtoient depuis longtemps, et il y avait vraiment une bonne vibe. Ils avaient sorti un album Black Dialogue qui est super, super cool. Malheureusement, ça n'a pas duré parce que voilà, après, il y a eu la vie personnelle de chacun qui a fait que, notamment Fax One qui a voulu plutôt s'occuper de son enfant et moins axé sur sa carrière.
Ouais, il a écouté les conseils de Edoji, s'occuper de son enfant.
Exactement.
Très bien.
C'est là que tu vois que c'est un mec de Boston, tu vois, c'est que lui, il a écouté Edoji et du coup, bah, il préfère se concentrer sur son gamin. Mais donc pour revenir sur Mr. Leaf, voilà, il a vraiment, c'est un artiste assez éclectique. Il a vraiment exploré pas mal, que ce soit sur ses projets solo ou dans les collaborations qu'il a pu faire, parce qu'il a notamment formé un trio avec Ayla Nero, qui est une chanteuse de folk, et The Polish Ambassador, qui est un producteur de ce qu'on appelle le glitch hop.
C'est quoi le glitch hop?
C'est du sort de hip-hop, entre un mix entre hip-hop et électro, assez, enfin c'est instrumental du coup.
Okay.
Et voilà, quelque chose de très rythmiquement très déstabilisant, je trouve, mais c'est assez intéressant. Je connais pas particulièrement Polish Ambassador, mais le glitch hop, c'est comme ça que ça se définit. Et il a aussi Mr. Leaf tourné, fait des tournées avec le duo Severic Corporation. Donc qui fait de la musique électronique, c'est hyper cool, hein, c'est Brick Corporation. Et lui, Mr. Leaf, c'est aussi un peu une bête de scène, c'est là-dessus ce côté-là qui ressort à travers ces tournées-là. Donc Mr. Leaf, belle discographie à aller explorer, il y a des concept albums, je conseille bien évidemment I Phantom dont j'ai parlé.
Ça donne envie, ouais. I Phantom, ça a l'air cool.
Mm. Fait, on conseillera toujours les meilleurs albums. À la fin de l'émission, n'oubliez pas de rester et on va s'écouter un petit son que tu nous as choisi, je veux justement, de Mr. Leaf, qui s'appelle
Status, donc qui est tiré donc de High Phantom, et c'est je l'ai pas précisé sur notre conducteur là, mais c'est avec Insight, un autre rappeur de Boston. Voilà.
Tu fais bien de le préciser. On s'écoute ça et on revient déjà pour la dernière partie de l'émission de Deeply Rooted. À tout de suite.
Butterfly collars and shit, chains from the slave ship, dreads with the wave kit, bifocals and wingtips, velvet pants and the velour coat up in the mirror.
Damn, I look dumb.
Folded up the singles in my loop clip, put a sock in my pants on some Uncle Luke shit. Dressed to impress, now I'm ready to go. The club is 12 blocks away and I got no loot, so I walk 10 and take a cab for 2. Black duct tape over the hole in my shoe. I've got the hardest dance steps, running man, cabbage patch, plus the RoboCop. Then I'll bring back the block. Jaws will drop and all the ladies will flop. Brothers thinking,
what you got that I ain't got?
I tell you, fella, it's written in my bestseller. It started to rain, I got no umbrella. The walking turned to running, still I look stunning. Covered enough ground before my taxi was summoned. Brought to the spot and hopped out at the front. Tripped over the curb limping cause my toes were stuck. Then I tried to give pounds to people I didn't know, like Lucy and Joe. My destination was the back door. Not because the bouncer told me not to come back. I'm just sneaking in the club because I got it like that.
Yeah. Big booty crew over here from Bellevue on the 1 and 2. I wanna see the masses wiggling, bounce, bounce, baby. If you're holding up the ball, then you're missing the point.
Yeah.
Big fat Greasy, I see you over there, baby. Throw them bones, big baby. Shine that disco ball with them bones. Get them up there now. No half-stepping.
I remember when you used to be broke, ignored when you spoke, and people would take you for a joke. You used to go to the club and look like a scrub, but couldn't afford the admission. From outside, you're looking in, waiting for a chance to slip by. You slide through the back door, but you wasn't supposed to be there. You'd look like an idiot if you got caught, but you didn't care. Just as long as you got your groove on, it was smooth sailing. They was playing the thong song. You're feeling shorty with the boots on, cutting through the crowd sideways. It's time to move strong. To cool kick and say something slick off the top. Flash your jewels, fix your suit, fidgeting with your wristwatch. But right when you was in the corner acting a big shot, they threw on some hip hop. People got on the dance floor, and a bouncer saw you standing at the corner near the door. He started walking your way to muscle you out, since you refused to pay. So there was nothing for you to say when he blew up your spot and threw you out the front to the floor. Past the bar on the right, through the double doors, you mumbled and swore, stumbled and tripped on the pavement. People in line started laughing when they threw your hat in, screaming that you wasn't allowed back in. But that was back then, acting like nothing happened. You patted your Timbs off, depressed from embarrassment. It could have been fresh, it would have been lavish. One day you make it and won't have to deal with this madness.
Off the case and y'all, look like Big Farouk had to take care of Rastafari with the wingtips. Farouk, you ain't in wrestling no more, big baby. Big booty crew from Bellevue, you on the 1 and 2. Keep banging, y'all. Keep it crunkling.
My status is the maddest. C'est déjà la dernière partie de l'émission de Deeply Rooted consacrée à Boston. On vient de s'écouter un son de Mr. Leaf. Et dans cette dernière partie, on va vous évoquer les autres artistes de la scène qu'on n'aura pas le temps forcément de voir en profondeur, mais dont il est important de parler. Et on terminera également avec le menu Maxi Best Of, c'est-à-dire le conseil d'album par les chroniqueurs de l'émission. Je crois que Jojo avait tout particulièrement envie de nous parler de Cousin Stiz.
Le fameux Cousin Stiz.
Il faut l'évoquer parce que c'est un peu le rappeur peut-être qui est le plus récent qui a vraiment émergé. C'était dans les années 2014-2015, je crois qu'il avait commencé à émerger. Il avait sorti un projet qui s'appelle Suffolk County et il avait ramené pas mal de lumière à ce moment-là. C'est une sorte un peu de trap, des versions. C'est marrant parce que ça, il pose sur des instrus qui sont semi-trap, mais avec un peu un côté laid-back, très un peu planant. Donc c'est assez sympa, c'est un peu mono format, quoi. C'est toujours un peu pareil, mais ça n'empêche qu'il a une discographie qui est franchement cool. Suffolk County, c'est un bon projet. Il est sorti Monda après, qui était très très cool aussi. Et là, le récent, c'est Trying to Find My Next Thrill, qui est aussi très très bien, avec notamment un morceau avec Freddie Gibbs que j'aime bien. Il y a dans son sillage un peu une forme de scène trap qui s'est formée, notamment un rappeur qui s'appelle Jody. Il y a un producteur Lil Rich qui le suit depuis le début. Et aussi la rappeuse Bia. Donc c'est une latino, une sorte de Cardi B latino, latina.
Qui vient de Boston.
Qui vient de Boston, ouais.
Cardi Bia, du coup. Hein.
Ah, joli. c'est en vrai, c'est marrant, c'est sympa, Bia.
Ok, très bien. T'as fait le tour de Cousin Stiz ?
On va dire ça comme ça.
D'accord. Parce que je crois que Momo, lui aussi, avait un personnage au nom intéressant dont il voulait nous parler, le bien connu Michael Christmas.
Bien connu, je sais pas, mais en tout cas, le talentueux Michael Christmas qui... C'est un peu un panda, quoi, qui rappe, mais c'est très stylé ce qu'il fait. Donc il sort son premier album en 2014 qui s'appelle Is That Heart. Vous voyez, moi j'ai pas de problème en anglais.
J'ai pas vraiment compris le titre de l'album. Mais...
Est-ce que c'est de l'art? je traduis même en français si tu veux. Alors lui, il est pas du tout dans une veine trap Atlanta, mais plutôt dans un kick soft, c'est très teinté d'humour ce qu'il fait et d'autodérision. C'est un peu un mec qui plie des instrus, mais gentiment. Donc c'est marrant l'effet que ça produit. Et, ouais, c'est très boom bap, un peu jazzy, vaporeux, ensoleillé, laid back. C'est un peu West Coast aussi. Un peu un touche à tout finalement. Mais c'est très agréable. Et je pense que là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est le genre d'artiste que t'as envie d'écouter, quoi. Vraiment, genre, c'est assez ensoleillé. Et il est à l'aise sur pas mal de genres finalement. Donc moi, j'ai bien kiffé ce qu'il a fait. Et puis il a déjà quand même pas mal de collabs intéressantes, puisqu'il a collaboré avec J. Perico que Jojo affectionne particulièrement, avec Mac Miller, paix à son âme, avec Trinidad James. Je pense que c'est le nom le plus stylé du rap US, hein. Trinidad James, tu peux pas faire mieux. Crondon du Strong Arm Steady, qui est l'ancien crew d'Exhibit, là je vous sors plein de noms, ou Logic, pareil. Donc à écouter, et j'ai bien kiffé.
Ça a l'air cool, hein, ouais, effectivement.
Donc pour cet été, ouais, Michael Christmas, je note. Et,
c'est Christmas, mais en été, exactement, ce qui est un peu surprenant.
Voilà, on a aussi des petits jeunes morts de faim, j'espère, qui sont là et qui suivent la tendance en l'adaptant à leur sauce. Je crois que vous pouvez parler de la Boston Drill, notamment.
Bah ouais, en fait, en ce moment, enfin depuis quelques années, on avait déjà fait une émission sur la Chicago Drill, il y a eu la UK Drill en fait derrière, et maintenant c'est en fait sur toute l'East Coast, t'as toutes les villes qui se mettent à faire de la drill, New York bien sûr, mais là aussi la Boston Drill, donc, et c'est aussi, hein. Ouais, la France aussi, bien sûr.
94 Drill, il faut pas l'oublier.
Mais pour revenir sur la Boston Drill, en fait c'est assez hardcore quand même. Parce qu'il y a vraiment une histoire il y a vraiment une histoire de tuerie. Il y a notamment le NOB Gang. Donc NOB, c'est les initiales de Norton, Olney, Barry. C'est trois rues du quartier, donc de Dorchester, donc un quartier très pauvre. En fait, c'est un quartier où il y a une forte communauté de Cap-Verdiens. Donc, dans ces quartiers, les Capverdiens, la communauté capverdienne, elle remonte à l'époque des expéditions de chasse à la baleine. Donc ça date aussi. La Nouvelle-Angleterre, c'est un peu de là que partaient toutes les expéditions. J'en profite pour voilà, un petit SO à Herman Melville qui est mort depuis longtemps, mais qui faut lire. Voilà, et donc ce gang-là, au sein de ce gang-là, il y a les rappeurs notamment Gifredo et 7981 Cal qui ont créé la Headshot Mafia et qui ont créé un style de morceau, un concept de morceau qui est assez hardcore. En fait, ils détaillent des scènes de meurtre, ils appellent ça les Dead Ops, donc les opérations de meurtre, quoi. En fait, ils détaillent voilà, des scènes de tuerie comme ça, de membres de Grand Grivo. Parce que voilà, les quartiers proches de ces trois rues, c'est vraiment à deux rues près. C'est des gangs rivaux et qu'ils ont envie de. Enfin voilà, qui sont en guerre tout le temps. Quoi. Et donc ils vont jusqu'à faire l'obscénité, ils poussent l'obscénité jusqu'à exhiber des objets personnels des morts devant la maison de la famille des morts.
Un délire un peu particulier.
Un délire assez morbide. Alors il y a Momo qui est mort de rire, je sais pas trop pourquoi. C'est pourtant pas forcément le truc le plus drôle. Mais en tout cas, ce qui est con, c'est que en faisant ça, bah, ils se sont fait choper finalement par les feds, parce que il y a ce qu'on appelle les RICO charges. Donc en fait, l'amendement RICO, c'est un amendement qui rend coupable toute personne qui a affilié à un gang et enfin quand il y a des cas de meurtre. Donc voilà. Donc là, ils se sont tous fait choper. Tout le NOB gang s'est fait choper. Et donc on les reverra probablement pas avant, je sais pas combien de temps. Mais ils sont pas prêts de revoir de réapparaître dans les bacs. Mais voilà, c'est quand même hyper vénère. Comme y a des morceaux qui sont cool, mais c'est quand même un poil gênant de,
oui, quand
de voir
que
les trucs.
C'était pas une ville ultra dangereuse et il y a quand même des quartiers un peu chauds.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Bah, Bobby Shmurda, il s'est fait avoir pour ça. Hein. Dans Hot Niggas, il balance quand même un de ses potes finalement. Quoi, et c'est comme ça qu'ils se font attraper.
Mais là, il y avait vraiment toute une poursuite, limite avec des micros. Enfin, c'est une enquête en mode The Wire, c'était assez ouf. Et voilà. Et sinon, en artiste drill, il y en a d'autres comme le Trotty Gang, très, très sympa aussi.
Le Trotty Gang.
Ou Billy Bendo aussi, donc il y a quand même pas mal de choses à écouter. Voilà pour la drill de Boston.
Trotty Gang et Billy Bendo. Incroyable.
Du coup, oui, t'évoquais la drill de Chicago, donc on a déjà évoqué, n'hésitez pas à aller écouter l'émission en allant sur www.dipyrotide.fr. On a fait un bon petit tour de la scène qui, finalement, on l'a vu, présente quand même pas mal d'intérêt, donc il y en aura pour tous les goûts. Je pense que vous avez de quoi faire. Pour vous donner un peu des indications de quoi écouter, on va vous conseiller quelques albums. Peut-être que Momo, tu peux conseiller. Normalement, c'est 3, c'est le menu Maxi Best Of. Donc, oui, vas-y, tes 3 albums que tu conseillerais sur la scène de Boston.
Je sais que j'ai l'habitude de dépasser et d'en mettre 4 ou 0, quoi, mais là, il y en aura bien 3. Donc, bien sûr, on va se concentrer sur Edoji pour ma part avec Life of a Kill in the Ghetto, qui est vraiment un classique du genre et qui s'écoute encore très bien aujourd'hui, même si c'est sorti en 91. My Own Worst Enemy, toujours de Edoji, qui l'a fait en full prod par Pete Rock, c'est une tuerie absolue, c'est un putain d'album. Et What a Weird Day de Michael Christmas, qui est son deuxième album et qui pareil très éclectique, très cool.
Ok, merci. Et toi, Jojo?
Bah moi je vais mettre Life of a Kill in the Ghetto aussi, que je trouve super bien. Et ouais, il avait le côté un peu joueur et une vraie candeur, et à la fois, comme tu disais, le journaliste de la rue. C'est vraiment un super album. Eye Phantom, dont j'ai déjà pas mal parlé, de Mr. Leaf, et Trying to Find My Next Wheel de Cousin Steez.
Ok, et ben, je pense que vous avez de quoi faire avec ça. On vous retrouve le mois prochain, comme d'habitude, pour vous parler de rap américain pendant une heure. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs retours sur notamment Facebook, Dipyrotide l'émission. Et donc d'aller sur le site www.dipyrotide.fr pour écouter tout le travail que nous avons fait. Je crois qu'il y a quand même maintenant combien d'émissions, 25, 26, je ne sais plus, mais vous avez de quoi faire. Un dernier mot peut-être, les amis.
SO Kevin Garnett, SO Paul Pierce, pour tous mes connaisseurs de basket.
Voilà, merci. Et toi, Jojo?
Non.
Ok, merci à tous de nous avoir écoutés. On se quitte sur un son justement de Michael Christmas avec le fameux cousin Steez qui s'appelle Everybody Hate. Et on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée à tout le monde.
Peace out, portez-vous bien.
Ciao, ciao.
All I know is be cool, but I make it look awkward. You look like a rapper that's trying real hard. And I whip like the bass guy and not like James Harden. I piss on the toilet seat in your apartment. I'm so disrespectful, it comes with the job. And my niggas is mobbing. If your bitch DM me while my dick is throbbing, I promise you sobbing, I'm stopping. Cause that never happens to moi. Like Earth Gang say, y'all like blah, 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 blah. While I left to the Sprint store like ha, 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 ha. Choosy McBitches did not want my John till I said you can't see me and F you to y'all. Y'all trick, y'all. Get the fuck out my face. I do not pop no Ace Carlo Rossi, that's bae. You not having heart problems, that's just the base. I'm trying to get paid like Mitch Rico and Ace.
Make that shot again, 5,000, you can't make it again.
Make it again.
My money, man.
Everybody gon' eat. Yeah. Everybody gon' eat.
Everybody eat.
Everybody gon' eat.
Everybody eats.
Everybody gon' eat. Yeah. Everybody gon' eat.
Should we have to? Yeah. Take my next play and I treat it like the last move. We call for it, then we at you. Yeah. I ain't do nothing, I ain't have to. We all make it if we all could. Hey. Shit ain't all good, but it's all good. Surfer got back, trying to ball like the hardwood. Stood on 10 toes like we all should.
Yeah.
Trying to tell you it can't be the same.
Same.
Man, I just want a little change and got me a name, ain't asked for it. But nothing ever promised today. We broke, we paid, I break it down in the same way.
Relax.
Only thing that I could be, the man in the mirror, now they looking up to me. And how that happened, every dream that came to be, ain't happened without you. Make sure everybody eats.
Yeah. Hey, give me my money, give me my money, give me my money. No rims, no rice, no champagne. You don't eat nothing. Fucking me, I'll get my money, man.
Everybody gon'
eat.
Yeah.
Yeah.
Everybody gon' eat.
Everybody eats.
Everybody gon'
eat. Everybody eats.
Go.
Everybody gon'
eat.
Hey.
Everybody gone.
Everybody gone.